أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد. Nous parlerons inshallah de la prière de l'Aïd, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Pour commencer, l'observation du croissant de lune de Shawwal aura lieu le 29 de Ramadan 1442, après le coucher du soleil, qui correspond cette année au mardi 11 mai 2021. Ainsi, si le croissant lunaire est vu, alors le jour de l'Aïd béni sera le lendemain de l'observation. Et si le croissant n'est pas vu, alors c'est un jour après. Donc, Eid al-Fitr, premier Shawwal 1442, sera soit le mercredi 12 ou le jeudi 13 mai 2021. Résultat de l'observation sur la page d'accueil du site islam.ms et sur l'application islam.ms. Remarque, les régions situées vers l'est ont le coucher du soleil plus tôt, alors l'observation chez eux est plus tôt. Donc comme on l'a vu, il y a la vie qui est beaucoup prise par les gens en Europe, la vie des Hanafis, qui est qu'on peut suivre l'observation même d'une région éloignée. Et il y a la vie qui dit qu'on observe, que ce soit chez les chefs et les malikis, qu'on observe que dans la région proche. On peut suivre les deux avis, bien sûr, comme on l'a déjà vu sur le début du jeûne. Que Dieu agrée votre jeûne et vos actes d'adoration. Donc, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, c'est le 10 de Dhul-Hijjah. Donc, 2 mois et 10 jours après. Shawwal, Dhul-Qa'da et Dhul-Hijjah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna a'tainaka al-kawthar fa salli rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Ce qui signifie, certes, nous t'avons donné al-kawthar, alors prie et sacrifie pour ton Seigneur. Certes, celui qui se moque de toi n'a pas de postérité. Surat al-kawthar. Donc ici, le sacrifice pour le jour de l'Aïd. Donc la prière des deux fêtes, c'est-à-dire la fête de al-fitr et la fête de al-adha, est un acte surérogatoire confirmé du prophète. Elle n'est donc pas obligatoire. Et celui qui ne la fait pas n'a pas commis de désobéissance, mais a raté une grande récompense. Donc son temps débute au lever du soleil jusqu'à son zénith. Mais le mieux est de la retarder jusqu'à ce que le soleil se soit levé à la hauteur d'une lance, c'est-à-dire à hauteur du regard, à savoir environ 20 minutes après le lever du soleil. Elle est de deux séquences rituelles, raka'a. Il est recommandé de la faire en groupe, mais il est valable de l'accomplir individuellement, comme la sunna de la prière du matin. Donc on peut la faire chez soi, c'est valable. Il est recommandé au début de la première raka'a, après avoir dit Allahu Akbar, pour l'entrée en rituel, takbiratul ihram, de dire 7 fois Allahu Akbar. Et il est recommandé dans la deuxième raka'a de dire 5 fois Allahu Akbar en plus du takbir que l'on dit en se relevant pour la deuxième raka'a. On dit entre deux takbirs, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il est recommandé de faire deux discours après la prière. Dans le premier, l'orateur prononce 9 takbirs, et dans le deuxième, 7 takbir. Il est recommandé de se rendre tôt sur le lieu de la prière de l'Aïd, et ceci après la prière de As-Subh. Sauf pour l'imam qui, lui, s'y rendra au moment de faire la prière. Il est aussi recommandé de faire des takbir pendant la nuit qui précède les jours de l'Aïd, la veille de Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, jusqu'au takbir d'entrée en rituel de la prière de l'Aïd. Allahu Akbar, ça veut dire que Dieu mérite plus de vénération que tout autre, celui qui est le plus imminent. Donc ici, ça désigne l'imminence de Dieu, qui est le tout-puissant sur toute chose, et celui qui est le seul qui sait toute chose, celui qui n'a pas de semblable, il n'a pas d'égal. De même, il est recommandé de dire des takbir, dire Allahu Akbar, après chacune des cinq prières obligatoires, depuis la prière de As-Subh du 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le jour de Arafah, jusqu'à la prière de Al-Asr du 13e jour de ce mois, même mois, c'est-à-dire le 3e jour de At-Tashriq. Donc ça, c'est recommandé. Il est aussi recommandé de faire la grande purification, la grande ablution, pour les deux Eid. Le temps du ghusl de la grande ablution commence à partir de la deuxième moitié de la nuit de Al-Eid et selon certains savants après l'aube, le Fajr. Il est aussi recommandé de se rendre à pied pour accomplir la prière. Cela est mieux que de s'y rendre en utilisant un moyen de transport, sauf pour celui qui a une excuse. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à s'y rendre avec un moyen de transport. Comme on l'a dit, c'est valable de la faire à la maison. Donc le premier jour de Shawwal est un jour de fête et de joie. Les musulmans, accompagnés de leurs enfants, se rendent tôt dans les mosquées afin d'accomplir en assemblée la prière surérogatoire de ce jour. Les jeunes, les personnes âgées, les riches, les pauvres, tous, quelle que soit leur origine, se retrouvent dans les mosquées unies dans la prière, unies dans leur joie. C'est une fête pendant laquelle les musulmans rendent visite à leurs proches, parents, à leurs voisins. Les liens de proche parenté sont maintenus et resserrés lors de ce jour. Les adversaires sont réconciliés, les liens sociaux sont renforcés, les musulmans s'attachent à réjouir les cœurs des pauvres, des nécessiteux, des orphelins, des veuves. Ils leur font des dons, des cadeaux, les invitent à partager leur repas. Et on n'oublie pas, bien sûr, la zakat. Il est recommandé le jour de l'Eid avant la prière de l'Eid. Sinon, on peut la donner, comme on l'a vu, pendant Ramadan. Il est déconseillé de la retarder après la prière de l'Eid. Et c'est interdit de la retarder jusqu'au coucher du soleil du jour de l'Eid. Donc, tout cela est l'enseignement du prophète généreux, altruiste, compatissant et bienfaisant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré. Donc on met l'intention de faire la sunna de l'Eid quand on fait la prière. Et on va voir, on peut dire ces takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc ça, le dernier passage, donc des fois qu'on le dit, enfin c'est dit, c'est répété en assemblée dans des mosquées, cette invocation. Bien sûr, on rappelle, comme en France, il y a pas mal de convertis. Donc si quelqu'un, le converti, il a des parents qui sont morts non musulmans, il peut pas dire ça. En effet, il n'est pas permis de demander miséricorde pour celui qui meurt non musulman, car Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt non croyant. Allah Ta'ala dit: Ma kana lin-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ce qui signifie, il n'est pas permis au prophète ni aux croyants de demander miséricorde pour les non-croyants après qu'ils ont su d'eux qui sont morts sur la mécréance, même s'ils faisaient partie de leurs proches. Sourate At-Tawbah, ayah 113. Cette ayah a été révélée quand l'oncle du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Talib, est mort non-croyant. Et il y a dans l'article de nombreuses preuves aussi que Dieu ne pardonne pas à celui qui meurt non-musulman et que le non-musulman, il est récompensé pour ses bonnes œuvres dans cette vie. Et dans l'au-delà, il n'a pas de récompense, car l'islam est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, c'est-à-dire pour être récompensé dans l'au-delà. Donc, voilà, donc la remarque importante. Donc, le non-musulman, il est récompensé dans cette vie. Ça, donc, c'est expliqué ici. Il est récompensé dans cette vie. Dans l'au-delà, il n'y a pas de récompense sans l'islam. Donc, il faut aussi respecter les conditions de la prière, comme couvrir la zone de pudeur, avoir la purification, de se diriger vers la Qibla. Donc, il y a des piliers, que ce soit pour la prière recommandée ou la prière obligatoire. Donc, c'est l'occasion de voir les piliers. Donc, bien sûr, l'obligatoire est prioritaire. Donc, et le surrogatoire aussi, il a ces conditions-là. Donc, on a dit la purification, couvrir la zone de pudeur, se diriger vers la Qibla. Tu vois des gens, ils courent, ils prient n'importe comment. Donc, surtout quand il y a du monde pour la prière de l'Aïd. Comme on a vu, la bonne attention ne suffit pas donc pour que l'acte soit valable. Et on a vu le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit irja wa salli fa innaka lam tusalli. Reviens fais la prière, tu n'as pas fait la prière. Donc, il y a des piliers de la prière, les piliers de la prière et ses conditions de validité. Donc la prière comporte des piliers, c'est-à-dire des actes obligatoires et des actes recommandés. Sunnah. Les piliers sont les actes de la prière indispensables à la validité de la prière. Quant aux actes surrogatoires, ce sont les actes pour lesquels il y a davantage de récompenses à les accomplir, mais les délaissés n'annulent pas la prière. Nous les accomplissons pour suivre l'exemple du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc les piliers de la prière sont au nombre de 17. L'intention. Premier, c'est l'intention, c'est un acte du cœur. Ce n'est pas un devoir de la prononcer par la langue. Ainsi, si on n'a pas dit par sa langue, j'ai l'intention d'accomplir Al-Dhuhr ou Al-Asr par exemple, mais qu'on a fait face à la Qibla et on a fait le Takbir et on a dit Allahu Akbar, et on a eu lors du takbir cette intention, quand par exemple j'ai l'intention d'accomplir l'obligation de dhuhr, la prière est alors valable. Donc c'est un acte du cœur. Pour la prière de l'Aïd, on met l'intention de faire la prière de l'Aïd, le fatr par exemple. Cependant, si l'intention est présente dans le cœur avant de faire le takbir, mais n'est plus présente lors du takbir, la prière n'est pas valable selon l'imam al-Shafi'i. Car selon lui, l'intention doit avoir lieu en même temps que le takbir. De même, la prière n'est pas valable si on dit par sa langue « J'ai l'intention d'accomplir l'obligation de dhuhr » et qu'on n'a pas cette intention dans le cœur lors du takbir. Ce n'est pas valable de la dire par la langue et de la délaisser dans le cœur. Donc selon Shafi'i, c'est en même temps que « Allahu Akbar » pour l'entrée en rituel. Chez les Maliki, c'est valable, il met l'intention peu de temps avant le takbir. Donc on peut prendre cet avis-là. Donc ce qui est nécessaire pour l'intention, c'est d'avoir la volonté d'accomplir la prière. De préciser la prière qu'il y a une cause particulière, comme la prière de la fête, Al-Aïd, ou celle de l'éclipse lunaire, ou bien la prière qui a un temps particulier, comme la prière de Al-Duha, qui a le même temps que la prière de l'Aïd, à savoir la matinée jusqu'au zénith. Donc, de faire l'intention d'accomplir une obligation dans le cas où il s'agit d'une prière obligatoire. C'est-à-dire que l'on fait l'intention avec le cœur d'accomplir la prière de Al-Dhuhr qui est obligatoire, par exemple. Ainsi, si on fait simplement l'intention d'accomplir la prière de Al-Dhuhr sans avoir présent dans le cœur son caractère obligatoire, La prière n'est pas valable chez certains Shafi'is. D'autres ont dit que la prière est valable sans elle. Il est un devoir d'avoir tout cela présent dans le cœur lors du takbir, selon Shafi'i, comme on a dit. La simultanéité de l'intention avec le takbir n'est pas obligatoire chez l'imam Malik, que Allah l'agrée. Par conséquent, si on fait l'intention pour cette prière peu avant le takbir, la prière est valable selon lui. C'est-à-dire que si on a fait l'intention avec son cœur, puis que l'on prononce la formule du takbir de l'entrée en rituel, la prière est valable. Donc deuxième pilier, la formule du takbir de l'entrée en rituel. C'est-à-dire de façon à pouvoir s'entendre soi-même, obligatoirement, pour l'ensemble de ses lettres. Donc on prononce, on ne dit pas juste dans le cœur, il faut s'entendre soi-même. Par rapport à un temps calme, bien sûr. Ça veut dire que s'il y a du bruit, il y a un chantier à côté, par exemple, il n'y a pas besoin de crier. Mais on dit de manière que s'il y avait un temps calme, on s'entendrait. Donc le takbir n'est pas valable s'il ne s'entend pas dire toutes ses lettres. De même pour les autres piliers oraux. La Fatiha, le Tashahud, le dernier Tashahud, passer le salam. Il est une condition de les prononcer de manière à pouvoir s'entendre soi-même. Donc les piliers oraux sont au nombre de 5. La formule du takbir de l'entrée en rituel, dire Allahu Akbar lors de l'ouverture de la prière, la récitation de la Fatiha, le dernier tashahud, l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la dernière position assise. Le salam, qui est le dernier pilier de la prière et qui consiste à dire assalamu alaykum. Donc, remarque relative à la formulation du takbir de l'entrée en rituel qu'il convient de connaître. Il est une condition de ne pas prolonger la syllabe ba du mot akbar de manière à ce que le terme devienne akbar. C'est interdit. Ceci annule la prière, c'est-à-dire que la prière n'est pas engagée par ce mot-là. Ceci est par ailleurs interdit car akbar dans la langue arabe est le pluriel du mot kabar, qui signifie grand tambour. Donc beaucoup de gens ignorent le sens, mais ça reste interdit. Donc si celui qui l'a dit ignorait la signification de ce mot, la prière n'est pas valable. Il a un péché. Si l'on connaissait la signification, il l'a dit délibérément, il est devenu non-croyant, bien sûr. Que Allah nous en préserve. Donc les savants, ils ont cité explicitement cela, et c'est ce qui rentre dans les règles. Attribuer à Dieu cela, c'est de la mécréance. Alors que l'on y prenne garde lors de l'appel à la prière, à l'adhan également. Certains chefs et imams qui ont mentionné dans un texte explicite que c'est de la mécréance, dans le cas où il a connaissance de la signification et qu'il a prononcé délibérément. Donc faire attention à cela, on dit bien Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc la prolongation c'est dans Allahu Akbar, il n'y a aucune prolongation. Donc sinon ça change le sens. Il est aussi une condition de ne pas prolonger la première lettre, le A, du mot Allah. Par conséquent, si quelqu'un dit Allahu Akbar, sa prière n'est pas engagée. Et c'est interdit, car cette signification... c'est une interrogation. Cela est une interrogation. Cela signifie une interrogation. C'est comme s'il avait dit « Est-ce que Allah sait plus que tout autre ou pas ?» ou comme s'il avait dit « Est-ce que Allah est plus puissant que tout autre ou pas ?» Donc en arabe, quand on prolonge le « A », c'est pour l'interrogation. Donc faire attention à cela. Donc on dit bien « Allahu Akbar ». Il est aussi une condition de ne pas ajouter de « wa » avant le mot Allah, de sorte que si l'on dit Wallahu Akbar, la prière n'est pas valable. De même, si on ajoute un wa entre le mot Allah et le mot Akbar en disant Allahu Akbar, la prière n'est pas valable non plus. De même, si on change le a de Akbar par un wa, la prière n'est pas valable comme en disant, comme si quelqu'un dit Allahu Akbar. Donc, dans le exemple précédent, s'il dit celui qui dit Allahu wa Akbar, et là, si quelqu'un dit Allahu Akbar. Donc, dans les deux cas, c'est pas valable. Donc, information utile, si le ma'moum, celui qui prie dirigé, a été sujet aux mauvaises suggestions venant à son esprit, à propos de la formulation du takbir de l'entrée en rituel, au point qu'il cause une gêne pour les autres ma'moum, c'est interdit. C'est-à-dire il va répéter, répéter, parce qu'il a du waswas, il va gêner les gens qui prient. C'est interdit. Il en est de même pour celui qui s'assoit pour parler près de quelqu'un qui accomplit la prière. De même, il lui est interdit de réciter à haute voix de sorte qu'il perturbe celui qui accomplit la prière à ses côtés. Donc on ne perturbe pas quelqu'un qui fait une prière valable. Donc troisième pilier, la position debout dans les prières obligatoires pour celui qui le peut. C'est-à-dire le fait de prier debout dans la prière obligatoire fait partie des piliers de la prière, même si c'est une prière que l'on fait à la suite d'un vœu, nadr, ou si c'est une prière funéraire. Il est donc une condition pour sa validité, aussi bien pour le jeune enfant que pour l'adulte, de la faire debout. Il en est de même pour la prière répétée, et celle qui est répétée après avoir été accomplie correctement suite à une deuxième assemblée. D'autre part, la condition de la position debout est réalisée en prenant appui sur ses deux pieds, en tenant sa colonne vertébrale verticale. Il n'est pas un devoir de tenir le cou vertical. Il est plutôt recommandé de pencher légèrement la tête en avant. Celui qui ne peut se tenir debout qu'à l'aide d'une canne doit en utiliser une. Donc ça veut dire l'enfant aussi, bien sûr, c'est pas un devoir sur lui la prière, mais il peut pas faire une prière qui n'est pas valable. Comme certains gens qui n'ont pas la connaissance, ils vont dire à l'enfant, viens prier juste pour apprendre les gestes. Non. Avant qu'il apprenne, l'enfant lui dit, regarde comment la prière. On ne dit pas de faire une prière qui n'est pas valable. Donc dans l'obligation, il faut être debout. C'est pas valable de prier assis comme on voit certaines personnes. Ils prient assis et sans la direction de la Qibla. La prière assis pour celui qui a une maladie, qui ne peut pas faire debout. Et dans les prières surrogatoires, c'est valable assis, mais on a la moitié de la récompense. Alors que pour l'obligation, il faut se mettre debout, sauf si on est malade. Prier quand on est malade, la prière du malade, si l'on est incapable de se tenir debout par soi-même ou en se faisant aider, c'est-à-dire que cela entraîne une grande difficulté insupportable habituellement, la prière est valable assis. Si l'on est incapable de se tenir assis, il est un devoir d'accomplir la prière obligatoire allongée sur le côté. Le droit ou le gauche, toutefois, il est préférable de se mettre prioritairement sur le côté droit. Mais si l'on est incapable de se... on se met sur le côté gauche. Si l'on n'a pas pu faire la prière sur un côté, il est un devoir de la faire coucher sur le dos et de relever la tête de façon obligatoire. Même un peu pour orienter sa tête vers la Qibla. Si l'on est incapable de faire tout cela, par exemple, si on ne peut que se tenir couché face au sol, on fait la prière dans cette position et on lève la tête si on le peut. Sinon, on fait la prière avec ses paupières, c'est-à-dire si on ne peut pas faire ce qui est avant, donc on fait avec sa paupière, c'est-à-dire on bouge ses paupières avec l'intention de faire l'inclination, puis on les bouge avec l'intention de faire la prosternation, en les abaissant de façon plus marquée, pour la prosternation. Si l'on est incapable de tout cela, on fait la prière gestuelle par le cœur. Quant aux piliers oraux, on les récite avec sa langue. Si sa langue est immobilisée aussi, on les fait avec le cœur. Donc, ce qui montre l'importance de la prière, on ne la délaisse pas comme ça. C'est le meilleur devoir, les cinq prières, après la foi. Donc celui qui accomplit la prière assis fait son inclination de manière à ce que sa tête soit au niveau de l'espace qui est au-dessus de ses genoux. La meilleure façon est de l'avancer au niveau de l'endroit de sa prosternation. S'il peut faire la prosternation à partir de la position assise, il le fait. Sinon, il va se pencher encore plus pour la prosternation que pour l'inclination quand il prie assis. Donc, il est recommandé après l'entrée en rituel, taharrum, c'est-à-dire après la formulation du takbir de l'entrée en rituel, de mettre les mains, donc la main droite sur la gauche, et de les mettre sous la poitrine au-dessus du nombril. Quatrième pilier, la récitation de la Fatiha. Conformément à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Ce qui signifie, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha correctement. Donc, elle est de cette ayah, cette verset, et la basmala, bismillahir rahmanir rahim, en fait partie. Donc selon un Shafi'i, il faut la dire. Bien que selon les Maliki, ce n'est pas une obligation de dire bismillahir rahmanir rahim, mais ce n'est pas interdit non plus de le dire. La récitation de la Fatiha n'est donc pas valable sans la basmala. Il est aussi un devoir de réciter les 14 lettres doublées. Il y a 14 lettres doublées avec Shadda. Si l'on délaisse ne serait-ce que l'une d'elles, la récitation de la Fatiha n'est pas valable. Comme si l'on dit Iyaka na'budu sans doubler le ya, dire Iyaka. Ça change le sens en fait. C'est Iyaka, Iyaka. Il est un devoir de réciter les ayats sans interruption. Si on délaisse cette condition en faisant par exemple un long silence pendant la récitation, il est un devoir de revenir au début de la récitation de la Fatiha. Donc on fait le silence normal de la respiration, ça, il n'y a pas de problème. L'interruption n'est pas préjudiciable si l'on est gagné par l'éternuement, la toux, le bâillement ou ce qui est semblable, même si cela se prolonge. De même, il n'est pas nuisible que le ma'moum dise Amin après la récitation de son imam. La récitation de la Fatiha n'est pas interrompue par cette parole. Il est aussi un devoir d'articuler les lettres sur leur point de prononciation. Donc celui qui délaisse cette condition par manquement, comme s'il change le vel en zay, ou le sod en sin, ou le ta en ta, sa récitation n'est pas valable. Donc on a travaillé cela, donc à voir, donc dans le cours des points de prononciation des lettres. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc il n'est pas une condition de connaître la signification de la Fatiha pour la validité de la prière. Mais il est une condition de bien la réciter, même en lisant pendant la prière. Donc on a déjà fait l'interprétation de la Fatiha. Et on a insisté sur le fait de ne pas traduire mot à mot, de ne pas traduire dans un sens qui n'est pas digne de Dieu, comme ils font beaucoup de traductions. Donc... Al-Maghdoubi alayhim, on ne dit pas ceux qui encourent ta colère, ceux qui méritent le châtiment de Dieu, pour ne pas croire que Dieu serait attribué d'humeur ou de changement, car ceci est impossible s'agissant de Dieu. L'inclination al-rukour, elle a lieu en se courbant jusqu'à ce que les paumes des mains puissent atteindre les genoux. Les paumes constituent le plat des mains, doigts non compris. Il est une condition que l'inclination soit réalisée sans beaucoup fléchir les genoux. La meilleure manière de réaliser la position de l'inclination, c'est de se tenir le dos et le cou tendu comme une planche en tendant les jambes et les cuisses et en prenant les genoux avec les deux paumes, en écartant les genoux d'un empan et en écartant moyennement les doigts. Ceci concerne l'homme. C'est pour les hommes. Quant à la femme, il lui est recommandé de se rapprocher les pieds. Elle va serrer plus la femme. De plus, pour que la manière d'accomplir l'inclination soit complète, on dit « Subhana Rabbi al-Azim » trois fois. Qui signifie « Il est exempt d'imperfection, il est exempté d'imperfection, il n'est pas concerné par l'imperfection. Mon Seigneur, lui qui est plus puissant, il sait plus que tout autre. » Et dans la prosternation, on dit « Subhana Rabbi al-A'la » Donc l'A'la ici pour montrer l'éminence de Dieu, celui qui mérite plus de vénération que tout autre. Mais il ne veut pas dire l'élévation spatiale car c'est impossible au sujet de Dieu, l'endroit, la direction, et attribuer cela à Dieu et du shirk. C'est un blasphème. A'la au sujet de Dieu, celui qui mérite plus de vénération que tout autre, celui qui est le plus éminent, celui qui sait tout, qui est tout puissant sur tout, ça englobe ces sens-là. La quiétude, at-tumanina, dans ce pilier, le temps de pouvoir dire subhanallah. Il s'agit de l'immobilisation simultanée de tous les os à leur place en une seule fois, c'est-à-dire immobiliser les membres simultanément. Le redressement à l'i'tidal, qui consiste à se relever en position assise. Le redressement à l'i'tidal, qui consiste à se relever en position droite après l'inclination. C'est le retour de celui qui était en inclination à la position antérieure à l'inclination, qui prie debout ou autrement. Ceci est réalisé en se relevant en position debout si l'on faisait la prière debout, et en se remettant assis si l'on faisait la prière assis. Donc bien sûr selon ses capacités. La quiétude dans ce pilier. Donc la prosternation à ce jour par deux fois, en posant le front sur l'emplacement de sa prière, en posant aussi une partie des genoux, une partie du plat des mains et du plat des orteils, et ceci conformément à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an asuda ala sab'ati a'dhumin al-jabhata wal-yadayn wal-rukbatayn wal-qadamayn, ce qui signifie j'ai reçu l'ordre de me prosterner sur cette partie, le front, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des pieds, donc les extrémités des orteils face donc au sol. Parmi ces conditions, appuyer le front de sorte qu'une cotonnade serait tassée si l'on se prosternait dessus et que les traces du tassement apparaîtraient sur la main. Abaisser la tête de sorte que la partie inférieure du corps soit plus élevée que la partie supérieure. La quiétude dans la prosternation. La position assise entre les deux prosternations. La quiétude dans la position assise entre les deux prosternations. La dernière position assise pour le dernier tashahhud est ce qui vient après le tashahhud, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, puis le salam, le salut rituel. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, al-jabhata wal-yadayn wal-rukbatayn wal-qadamayn. Donc ce qui signifie j'ai reçu l'ordre de me prosterner sur cette partie, le front, les deux mains, les deux genoux et les extrémités des pieds. Donc il est important de poser les extrémités des pieds. On pose les orteils collés contre le sol. Donc le dessous des orteils collés contre le sol. Donc parmi ces conditions, appuyer le front de sorte qu'une cotonnade serait tassée si l'on se prosternait dessus. Si l'on se prosternerait dessus et que les traces du tassement apparaîtraient sur la main. Ne pas tenir la tête comme ça effleurée, il faut appuyer de sorte que s'il y avait du coton, ça le tasserait en fait. Abaisser la tête de sorte que la partie inférieure du corps soit plus élevée que la partie supérieure. Donc c'est la position naturelle en fait. La quiétude dans la prosternation, c'est-à-dire rester un temps de quiétude. La position assise entre les deux prosternations. Et on fait la quiétude dans la position assise entre les deux prosternations. La dernière position assise pour le dernier tashahhud est ce qui vient après le tashahhud, c'est-à-dire l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, puis le salam, le salut rituel final. Le dernier tashahhud, il y a un minimum et une forme complète. Le minimum du tashahhud sans lequel la prière n'est pas valable est le suivant. Donc selon l'école Shafi'i, At-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi s-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, wa anna muhammadan rasulullah. Quant au tashahhud complet, c'est التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Donc ce qui signifie, donc voilà le sens, les salutations, les œuvres qui prospèrent dans le bien les prières et les œuvres méritoires appartiennent à Allah. Tout appartient à Allah, tout est créé par Allah. Nos actes, nos paroles, notre mouvement, nos attentions, tout est créé par Allah. Comme c'est dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Qui signifie Allah vous a créé et ce que vous faites. Que le salut de tout mal te soit accordé au prophète, ainsi que la miséricorde de Allah et ses bénédictions. Que le salut nous soit accordé ainsi qu'aux esclaves de Allah vertueux. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Donc il y a une autre version, on va voir, chez les Maliki. Avertissement, il s'est propagé chez certaines personnes que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au cours de son ascension à l'endroit où il a entendu la parole de Allah tabaraka wa ta'ala, il aurait dit At-tahiyyatu lillah, et Allah aurait dit Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Cela n'est pas vrai, car cette forme de tashahhud n'a pas été rendue obligatoire cette nuit-là. Toutefois, certains menteurs rapportent cette histoire qui a connu une grande propagation, bien qu'elle soit attribuée mensongèrement à Allah. Il est donc un devoir de l'expliquer aux gens. Donc c'est faux ça. Bien sûr, Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas des sons, ce n'est pas des lettres. Ce n'est pas une langue arabe ou autre. Quand on dit le prophète Muhammad, il a entendu la parole de Allah, ou le prophète Moussa, ça veut dire il a compris de la parole de Allah ce qu'il a compris. Sans que ce soit des sons, ni une voix qui arrive dans l'oreille. Car la parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures. Ça, c'est les bases de la croyance. Attribuer à Dieu les sons, les lettres, c'est du shirk. Donc la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, comme on l'a déjà vu. Ce n'est pas une langue, ni arabe, ni autre. Donc on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu, ni la réalité de ses attributs. C'est pour cela que les savants disent que Allah existe sans endroit et sans comment, et ne dépend pas du temps. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Seul Allah sait sa réalité. Donc l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala nabi, dont le minimum est Allahumma salli ala Muhammad. Donc il faut bien le prononcer, Allahumma salli, c'est un sad, et le lem il est doublé sans la prolongation. C'est interdit de prolonger. Donc on ne dit pas salli, ça change le sens. Allahumma salli ala Muhammad, ce qui signifie oh Allah honore et élève davantage en degré Muhammad. Donc la façon la plus complète est de réciter toute l'invocation ibrahimiya. Donc Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc le salam, dont le minimum est de dire Assalamu alaykum. Parmi ces conditions, on prononce l'article défini. Donc ça veut dire le A au début. Ainsi, il ne suffit pas de dire Salamu alaykum. Il faut bien l'article défini, le alif lam. Assalamu alaykum. Quant au salam complet, il est réalisé en ajoutant wa rahmatullah. D'autres ont choisi d'ajouter wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela a été rapporté dans les sunan de Abu Daoud, dont le premier salam. Donc c'est le premier salam qui est un devoir. Le deuxième, il est recommandé. Et tourner la tête à droite, dont le premier est recommandé, et la tourner à la tête à gauche, dont le premier et dont le deuxième est recommandé. Mais il faut pas tourner la poitrine, il faut garder la poitrine face à la qibla. Sinon, ça annule la prière. Détourner la poitrine de la qibla, ça annule la prière. Avant le salam, bien sûr. L'ordre, c'est-à-dire effectuer les piliers dans l'ordre, comme ils viennent d'être cités. Si on fait exprès d'abandonner l'ordre, comme par exemple, si on se prosterne avant de faire l'inclination, la prière est annulée, selon l'unanimité, en raison de son manque de sérieux. Cela concerne celui qui abandonne l'ordre délibérément. Si on le fait par inattention, alors qu'on revienne au pilier omis pour l'accomplir. Sauf si on se trouve dans le pilier correspondant. de la rak'a suivante, ou plus avancé encore. La rak'a du pilier omis est complétée par ce pilier et on ne prend pas en compte ce qui a été fait par inattention après le pilier omis jusqu'au pilier correspondant de la rak'a suivante. Si quelqu'un a abandonné l'ordre par inattention, puis s'est rappelé de ce qu'il a omis, soit il s'en rappelle avant d'avoir atteint le pilier correspondant de la rak'a suivante, par exemple, il a oublié de s'incliner, il s'est prosterné directement. Tant qu'il n'est pas arrivé à l'inclination suivante, il revient. Il revient pas incliné, il revient debout, parce que l'inclination ça commence à partir de la position debout, et il s'incline et complète. La prière dans l'ordre. Soit il s'en rappelle alors qu'il a atteint le pilier correspondant de la rak'a suivante. C'est-à-dire, il a commencé la deuxième rak'a, il s'est rappelé que dans la première, il ne s'est pas incliné. Il est déjà arrivé à l'inclination de la deuxième. Dans ce cas, il ne revient plus, il complète. Et au final, il manquera une rak'a en fait. Parce que ce qu'il a oublié et ce qui a été fait, ça compte pas. Entre l'inclination oubliée et l'inclination faite, ça compte pas. Donc au final, il va rajouter une rak'a en fait. Soit il s'en rappelle alors qu'il a dépassé le pilier correspondant de la rak'a suivante. Donc le deuxième cas et le troisième, c'est pareil. Donc il revient plus, il complète. Il rajoutera une rak'a. Donc alors, le détail à propos de ces jugements est le suivant. Donc c'est pour répéter là. Si on s'en rappelle avant d'avoir atteint le pilier correspondant au pilier omis, le pilier oublié, ce qu'on aura fait après le pilier omis ne sera pas pris en compte parce que cela n'a pas été fait à sa place. De sorte qu'on doit revenir immédiatement au pilier omis pour conserver l'ordre. Par exemple, dans le cas où on était dans la première rak'a, on a oublié de l'inclination et on s'est prosterné directement après avoir fini la récitation de la Fatiha. Puis on s'est rappelé dans la prosternation qu'on a délaissé l'inclination, on se relève alors immédiatement et obligatoirement en position debout. Il n'est pas suffisant de se relever en position d'inclination. Puis on accomplit l'inclination et on poursuit la prière. Si on se rappelle alors qu'on a déjà atteint le pilier correspondant au pilier omis dans la rak'a suivante, ce qu'on est en train de faire complète la rak'a et on ne prend pas en compte ce qui a été fait entre le pilier omis et ce qu'on est en train de faire. Par exemple, dans le cas où on a oublié l'inclination de la première rak'a, puis on s'est rappelé dans l'inclination de la deuxième rak'a, on reste dans cette inclination en considérant que c'est la première rak'a et on poursuit la prière. Si on s'en rappelle alors qu'on a dépassé le pilier correspondant au pilier omis, la rak'a a été complétée parce qu'on vient de faire et on ne prend pas en compte ce qui a été fait entre les deux. Par exemple, dans le cas où on a oublié l'inclination de la première rak'a, puis on s'est rappelé dans la prosternation de la troisième qu'on avait oublié l'inclination de la première rak'a, on reste dans cette position et on poursuit la prière en considérant que cette rak'a est la deuxième. Car ce qui a été fait après le pilier omis jusqu'au pilier correspondant suivant n'est pas pris en compte. Par conséquent, ce qui a été fait entre l'inclination omise de la première rak'a et l'inclination de la deuxième n'est pas pris en compte. Donc ce jugement concerne celui qui n'est pas ma'moum, c'est-à-dire il prie tout seul. Le ma'moum accomplit une rak'a après le salam de son imam. Donc si on prie dirigé, on revient pas, mais on va rajouter une rak'a, donc après le salam de l'imam. Remarque importante, le fait de douter dans cette question est considéré comme le fait de se rappeler. De sorte que si on s'incline, puis on doute d'avoir récité la Fatiha ou pas, ou bien si on se prosterne, puis on doute de s'être incliné et remis debout ou pas, on doit immédiatement se relever en position debout. Il n'est pas suffisant de se relever en position d'inclination. Quant à celui qui est encore debout et doute d'avoir récité la Fatiha ou non dans cette même rak'a, il ne lui est pas un devoir de la réciter immédiatement car il n'a pas encore quitté la position propre à cette récitation, mais il la récite bien sûr avant de s'incliner parce qu'il doute. Est-ce qu'il a récité la Fatiha ou non qui est un pilier? Remarque sur l'explication des termes de la prière. Allahu Akbar signifie Allah est plus puissant et c'est plus que tout autre. Et non pas qu'il est plus grand par les dimensions car Allah est exempt des dimensions. Il n'est pas concerné par le corps, la quantité. L'islam est la seule religion valable car c'est la seule religion où on croit que Dieu n'a pas de forme ni de quantité. Car tout ce qui a une forme, une quantité, que ce soit une vache, une statue ou quelque chose qui habiterait le ciel, ça implique le besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Quiconque attribue à Dieu la forme, la quantité, bien sûr, n'est pas musulman. Donc il est valable de l'expliquer par l'expression kabir, car la parole Allahu Akbar est synonyme de Allah kabir. Subhanallah, justement, signifie que Allah est exempt de toute imperfection, de tout défaut, tel que l'incapacité, la faiblesse, l'ignorance, la peur, le changement, la position assise, l'établissement, ce qui est de cet ordre des caractéristiques des humains. Donc faire attention aux mauvaises traductions, comme on l'a déjà vu. Attribuer à Dieu le changement, la quantité, la localisation, c'est du shirk. Subhana Rabbi al-A'la, cela signifie j'exempte de toute imperfection mon Seigneur qui est plus élevé en degré que tous ceux qui ont un degré. D'une élévation en degré et non pas d'une élévation par la localisation, l'endroit et la distance. Donc c'est proche du sens Allahu Akbar qui a le plus de mérite, qui mérite de plus de vénération, qui est le plus imminent. Subhana Rabbi al-A'la, qu'il est recommandé de dire 3 fois dans la prosternation. Donc les conditions pour être récompensé dans la prière, pour l'acceptation de la prière par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour avoir des récompenses, il est une condition en plus de ce qui précède, que l'esclave de Allah vise par sa prière l'agrément de Allah lui seul, que sa nourriture, ses vêtements et son lieu de prière soient licites, et qu'il ait dans le cœur le khushu'a, c'est-à-dire avoir présent dans le cœur la crainte de Allah ou bien l'amour et la glorification de Allah, ne serait-ce qu'un instant dans la prière. Si cela n'est pas réalisé, la prière reste valable, mais sans récompense. Donc il faut avoir la crainte pour avoir la récompense, l'amour, la glorification de Allah aussi. Donc, il est valable aussi dans le tashahud de réciter l'autre version rapportée du compagnon Omar ibn al-Khattab. Donc, livre Al-Muwatta de l'imam Malik, page 81, chapitre du tashahud, il a dit « Yahya m'a transmis d'après Malik, d'après Ibn Shihab, d'après Urwa ibn Zubayr, d'après Abdurrahman ibn Abdil Qari, qu'il a entendu Omar ibn al-Khattab alors qu'il était sur le mimbar, sur la chair. Il enseignait aux gens le tashahud, il disait, dites, At-tahiyyatu lillah, az-zakiyyatu lillah, at-tayyibatu s-salawatu lillah, as-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh. Donc la bonne intention à elle seule ne suffit pas pour la validité des actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'intention à elle seule n'est pas suffisante. Le hadith rapporté par At-Tirmidhi ainsi que d'autres en est la preuve. Rawa At-Tirmidhi wa ghayruhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-masjid. Fa dakhala rajulun fa salla thumma jaa'a fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa radda 'alayhi as-salam fa qala ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة. Le sens de ce hadith est que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée. Puis un homme est entré effectuer la prière. Ensuite cet homme est venu à passer le salam au prophète. Le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu au salam puis a dit Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Ce qui signifie retourne et prie car tu n'as pas prié. L'homme est retourné et a prié de la même manière que la première fois, puis il est revenu à de nouveau passer le salam au prophète. Le prophète a répondu au salam, puis a dit Irja fa salli fa innaka lam tusalli. Ce qui signifie retourne et prie car tu n'as pas prié. Ainsi l'homme est retourné prier, cette scène s'est reproduite 3 fois. L'homme a alors dit par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne connais pas autre que cela, apprends-moi. Le messager lui a alors appris comment prier. Donc dans ce hadith, le prophète lui a pas dit « C'est bon, t'as eu la bonne intention parce que cet homme-là, il voulait faire le bien. » Il lui a dit, tu n'as pas prié, ça compte pas, dans le sens. Refais. Donc, ce n'est pas valable de dire j'ai la bonne intention ou de faire quelque chose qui n'est pas valable. Parce qu'on va rendre des comptes sur l'intention et sur l'acte, sur les deux. Il faut faire en sorte que l'intention et l'acte soient conformes à la religion. De même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّهَرُ وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Ce qui signifie, il se peut que quelqu'un pense faire des prières surérogatoires de nuit et ne gagne de cela que la veille et le manque de sommeil. Et il se peut que quelqu'un pense faire le jeûne et ne gagne de cela que la faim et la soif. Donc ça veut dire, la bonne attention ne suffit pas. Rapporté par Ibn Hibban. C'est-à-dire que cette personne a fait des actes qui n'étaient pas valables du fait qu'il manque des conditions de validité ou des piliers. Ou qu'elle a fait des actes qui ne remplissent pas les conditions pour être récompensée. On apprend de ces hadiths qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, de vouloir faire le bien pour qu'un acte d'adoration soit valable. En effet, il faut que l'acte soit conforme à l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc primordial d'apprendre les lois de la religion par transmission orale auprès des gens ayant la connaissance et dignes de confiance. Donc voilà pour les piliers de la prière. Donc on rappelle que quand on se prosterne, on pose les mains, on pose pas les coudes. C'est déconseillé de poser les coudes, ça annule pas. Et on pose le dessous des orteils aussi. C'est pas une condition de toucher avec le nez, mais c'est bien. Donc on pose le front comme on l'a dit, et on pose le nez aussi, c'est bien. Donc on a vu les temps des prières, vous pouvez revoir, et on reverra cela, inshallah. Donc bien sûr, la prière n'est pas valable du non-musulman, donc on dit pas à un non-musulman de faire la prière. Il faut d'abord rentrer en islam. Donc faire attention à cela. Et des gens ils disent, viens, essaye avec nous. Donc c'est interdit de dire cela parce que la prière n'est pas valable de quelqu'un qui n'est pas musulman. Même si quelqu'un il est apostat aussi. On ne lui dit pas de faire la prière. Quelqu'un qui insulte Dieu, il n'est pas revenu à l'islam par les deux témoignages. Donc on ne dit pas de faire la prière. Lui dire de faire la prière, c'est un blasphème. C'est comme si lui dire, c'est accepter de toi. Il faut aussi la distinction. Un enfant qui ne distingue pas encore, on ne dit pas viens faire la prière. Parce que la prière n'est pas un jeu. On dit regarde comment faire la prière. Il faut bien sûr couvrir la zone de pudeur, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impureté, comme de l'alcool ou... Donc l'homme c'est entre le nombril et les genoux, la zone de pudeur, et la femme tout le corps sauf le visage et les mains. Il faut que le temps de la prière ait commencé, et faire face à la Qibla. Donc comme on l'a dit, la direction de la Kaaba. Donc les temps de prière on les a vus, il faut savoir ces temps-là, et être sûr que le temps il est rentré. Donc on poursuit sur l'arabe où on est arrivé. On est arrivé à la lettre Sin. Sa, Sou, Si. Sa, Sou, Si. En prolongeant, c'est Sa, Sou, Si. Fatha, Dhamma et Kasra. Si. Sin, c'est la lettre Sin. Ursum da'iratan hawla al-harfi sin. Dessine un cercle autour de la lettre sin. Samakatun libasun. Donc samakatun poisson, libasun habit, sathun terrasse, farasun cheval, sukkarun sucre, silkun fil de fer. Sa'idun, heureux. Sa'atun, montre, heure. Ou un laps de temps aussi. Shamsun, soleil. Nasijun, tissu. Rasulun, messager. Safinatun, bateau. Safarun, voyage. Ra'sun, tête. Uktub harfa sini hasab al-amthilati taliya. Écris la lettre sin selon les exemples suivants. Sin, donc ces trois dents, on va dire. Sa, su, si. Donc avec un crayon, c'est plus facile. Sa. Donc comment elle s'attache au milieu, là. Et lettre finale, elle est comme ça. C'est en finale. Quand elle est attachée, en finale, quand elle n'est pas attachée. Donc on va écrire en grand, c'est plus facile. Ça. Là, c'est le début. Quand elle est au début d'un mot, c'est comme ça. Et au milieu, donc elle s'attache des deux côtés. Ça. Et à la fin, quand elle est comme ça. Et à la fin, quand elle n'est pas attachée, c'est comme ça. Donc ça, sous, si. Ça. Et quand on prolonge, alors ça. Donc faire les dents proportionnelles. Ça, sous, sous. On prolonge avec le waou. Donc comme ça, on s'habitue. Sous. Et avec le ya. Si. Avec la kasra. Et le ya. Sa, sous, si. Donc voilà. Révisez bien. Donc en vous souhaitant, inshallah, bonne fête de l'Aïd. Que Dieu vous fasse revivre cette occasion dans le bien, la paix et la piété. Que Dieu agrée votre jeûne et vos actes d'adoration. Que Dieu vous facilite. Donc l'apprentissage de la religion et la pratique, inshallah. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est-à-dire, celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et il dit, la yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. C'est-à-dire, le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend, jusque ce que la fin en soit le paradis. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد بارك الله فيكم والسلام عليكم